Chapitre 10e. Un jour qu'il pleuvait, que le rata était immangeable, que le travail qui nous restait à faire était plus pénible que d'habitude, que la plaine qui s'étendait autour de nous semblait sans limite, je m'approchai de deux de mes camarades qui s'étaient abrités sous un wagon, entre les essieux, et qui, dernier vestige de l'indépendance perdue, avaient laissé leur gamelle devant eux sans la ranger immédiatement. Il fumait une cigarette à deux, se la passant après chaque bouffée. Je m'assis à côté d'eux. Je leur dis que cette existence ne pouvait plus durer, que j'en avais assez, que si ça continuait, je ferais un mauvais coup. Je croyais qu'auprès d'hommes plongés dans une pareille détresse, d'autres plaintes répondraient aux miennes, mais ils gardèrent le silence. Je leur dis qu'il ne nous restait qu'une chose à faire, nous évader, que tout valait mieux que de continuer à vivre ainsi. Ils ne me répondirent toujours pas. Je pensais qu'ils se méfiaient de moi. Rien de plus étonnant que d'éprouver ce sentiment dans le malheur, quand rien de ce qu'ils justifient n'existe plus. Pour les rassurer, pour écarter la suspicion qui pesait sur moi de pousser autrui vers ce que j'hésitais moi-même à faire, j'ajoutais que, quant à moi, ma décision était prise. J'aimais mieux risquer de recevoir une balle dans le dos que de continuer à croupir ainsi misérablement. Ils me regardèrent. Quel étrange regard! Mes deux camarades, écrasés sous le poids de leur captivité, pensaient qu'il y avait dans ma vie des raisons cachées, mystérieuses, qui me donnaient une indépendance qu'ils m'enviaient. J'essayais de me rattraper en leur assurant que nous étions tous dans la même situation. Je perdis mon temps. À partir de ce jour, ils me témoignèrent une certaine méfiance, comme si, pour oser décider de fuir, il fallait que je comptasse sur des appuis que je leur cachais. Comme si j'étais un type peu sympathique de chercher les entraîner dans une aventure où ils n'avaient pas les mêmes moyens que moi de se défendre. Le travail était loin d'être satisfaisant. Bien que je me rendisse compte que cela n'ajoutait pas grand-chose, je travaillais plus que je ne devais, essayant de compenser ainsi la mauvaise volonté de mes camarades. Je voulais surtout éviter qu'on ne me renvoyât au camp. J'essayais de stimuler mes camarades, leur disant que de vives rares, il ne serait impossible de nous évader. Ils me répondaient qu'ils ne voulaient pas travailler pour les Boches. En réalité, la raison était autre. Quand on souffre, les sentiments les plus bas émergent de notre cœur. Tous ces hommes, qui n'aspiraient comme moi qu'à être libres, se vengeaient de ne pouvoir l'être en contrecarrant les efforts de ceux qui travaillaient à le devenir. Je leur disais que de toute façon nous étions mieux ici qu'au camp. Il feignit alors d'être indifférent au plus ou au moins. Je tâchais de réveiller leur énergie par des arguments auxquels nous autres Français nous sommes sensibles, à savoir qu'il ne fallait pas tomber dans le fatalisme, que leur résignation n'était pas digne des gars de chez nous. Un soir, profitant de ce que mes camarades étaient de meilleure humeur, je remis notre évasion sur le tapis. J'eus à lutter ce jour-là contre un argument qui revenait périodiquement. Le bruit courait que nous allions être tous libérés incessamment, que la paix allait être signée. Une sentinelle l'avait entendue à la radio. Elle l'avait répété à l'un de nous. Je parlais depuis quelques minutes, lorsque le bruit d'une discussion s'éleva derrière moi. Momo et Gématon se disputaient je ne sais pour quelle raison. « C'est toi qui as fait ça, » disait Gématon. « Non, ce n'est pas moi. » On les pria de se taire. Momo répondit que jamais personne ne l'avait empêché de parler. Élevant la voix, j'observais que dans ces conditions il valait mieux renoncer à nous évader. Tant pis, nous transporterions des rails jusqu'à la fin de la guerre. Et j'ajoutais, j'aime mieux vous prévenir, nous en avons pour un moment. Personne ne m'écoutait. La querelle s'était généralisée. Tous mes camarades criaient en même temps. J'entendis cependant l'un de dire qu'il fallait m'écouter, un autre lui répondre qu'il se foutait pas mal de mes histoires, que je parlais trop, que je ne savais que parler. Je m'assis à l'écart sur une paillasse, attendant que le calme revînt. Pelet, faisant celui qui n'a jamais perdu son contrôle, bien qu'il eût été un de ceux qui eussent crié le plus fort, s'approcha de moi. Il me dit que ce qui se passait était honteux. Je le priai de me laisser tranquille. Il parut tellement navré que j'eusse l'air de le mettre sur le même plan que les autres, que j'ajoutais en montrant mes camarades, qu'il était bien difficile de s'entendre. La dispute redoublait de violence. Il s'agissait maintenant du travail que certains faisaient faire par d'autres. Enfin, lorsque cette querelle à propos de rien fut calmée, je m'adressai de nouveau à la chambrée. Comme on m'interrompait à chaque instant, je disais machinalement « Je vous en prie ». J'ajoutais que je ne les forçais pas à m'écouter, mais que je tenais à les prévenir que nous ne resterions pas ici indéfiniment, qu'on allait nous renvoyer au camp, et qu'à ce moment nous regretterions de n'avoir pas su profiter de l'occasion qui nous était offerte à présent. Mes camarades s'étaient mis à compter les « je vous en prie » que je disais à chaque instant. 11, 12, 13. Baumé, qui se tenait à l'écart, cria pour faire de l'esprit alors que je me taisais justement « 14 ». Il y eut des imbéciles qui se mirent à rire. « Mais en somme, qu'est-ce que vous attendez de nous ?» s'écria un de ceux qui avaient le plus gesticulé. C'était la première fois qu'on me prenait aussi ouvertement à partie. Je répondis par un haussement d'épaule. La bussière continua. « Si vous tenez à foutre le camp, faites-le, et ne nous emmerdez plus. Nous n'avons pas besoin de vous pour nous dire ce que nous avons à faire. Ça suffit comme ça. Pas besoin d'autres histoires. » Pelet, Baumé et un certain Mimiag se tournèrent vers la bussière et lui dirent qu'en effet, ça suffisait comme ça. « Personne ne vous empêche de partir, » cria Durut, « si vous en avez envie. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne plus nous casser les pieds. » Je répondis qu'en effet, personne ne nous empêchait de partir, mais que nous n'étions pas des gens qui ne pensions qu'à nous, que nous ne voulions pas qu'à cause de nous certains eussent à souffrir, que nous ne partirions que si nous étions tous d'accord. Momo se mit alors à crier que nous étions des salauds, et cela pour une raison tellement inattendue que je restais bouche bée. Nous étions des salauds d'avoir pu penser une seconde qu'il y avait parmi nous des camarades capables de nous dénoncer. Ce n'était pas leur genre, ils n'avaient jamais trahi un copain, etc. Mes camarades s'étaient tus. Impossible de deviner ce qu'il pensait.